Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Retour sur RMC, RMC Story, on est bien sûr dans Estelle Midi, comme chaque jour, de midi à 15h. Et aujourd'hui, autour de la table, on trouve Rémi Barré, on trouve Thierry Moreau, Benjamin Muller, auteur du podcast Encore une histoire et journaliste, et puis la militante associative Mathilde Himmer. On vous attend évidemment au 32-16 pour parler barbecue. Bah oui, ça y est, l'été approche, on parle barbecue, mais pas n'importe quel barbecue, non. On parle barbecue en ville parce que la mairie de Paris autorise enfin les barbecues dans Paris à partir de cet été. Mais bonne ou mauvaise nouvelle, dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. Il y aura bien sûr le zapping, le meilleur d'RMC aux alentours de 13h30. Ensuite, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera également à 14h, on parlera de couple, politique, écologie, éducation. Faut-il avoir les mêmes convictions que son conjoint pour qu'un couple dure? On attend bien sûr vos témoignages sur l'appli RMC. Dites-nous par exemple si vous votez pareil que votre conjoint, ou si au contraire vous avez décidé de divorcer une fois que vous avez connu la personne pour laquelle il ou elle a voté lors des dernières élections présidentielles. Et puis on terminera avec les immanquables. Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
On parlera notamment des prix de stationnement modulés selon le poids et la taille de votre voiture. Ça commence à arriver dans certaines villes.
Ça, c'est pour les SUV.
Et puis on parlera d'une possibilité désormais offerte à certains clients. Je vous en parlerai plus en détail. Faire ses courses grâce à ChatGPT.
Ah bon ?
Ouais, on verra.
Ça va être pratique.
RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC. On va tout de suite s'intéresser à l'initiative du jour dans Estelle Midi. Et cette initiative, c'est celle de la mairie de Paris qui, pour la première fois, a accepté l'usage des barbecues en ville. Pas sur les trottoirs ou dans des cours d'immeubles, mais dans certains parcs municipaux. Alors concrètement, Rémi, ça va se passer comment? Est-ce que chacun vient avec sa merguez, son barbecue?
Vous amenez ce que vous voulez manger, mais vous n'amenez pas en tout cas votre barbecue. Hein.
Comment ça?
Je t'explique. Dans le souci de promouvoir la convivialité et l'animation des quartiers, le Conseil de Paris a adopté cette mesure inédite, en tout cas dans la capitale, l'installation de barbecue électrique dans plusieurs parcs du 18e arrondissement. Le projet était porté par le groupe écologiste qui la présente comme une solution pour encadrer et réguler l'usage des barbecues sauvages qui apparaissent avec l'arrivée des beaux jours. L'utilisation de ces barbecues sera encadrée par des associations spécialisées.
Quoi ? Des associations spécialisées dans les barbecues.
Les pros des barbecues, bien sûr, qui font partie d'associations, et par des acteurs de la prévention.
Les barbecues du cœur.
Des villes comme Grenoble, Nantes ou Rennes ont déjà adopté cette pratique, mais à Paris, la droite a critiqué l'initiative, pointant du doigt notamment la contradiction avec le discours national tenu par les écologistes. Depuis Sandrine Rousseau, on se souvient, qui a parlé du barbecue comme d'un symbole de virilité, en passant par la LFI Clémentine Autain qui a pointé du doigt les personnes végétariennes étant majoritairement des femmes, ce qui n'est pas normal. Mais le groupe écologiste de Paris a sa réponse. Animé donc par des associations, ces barbecues pourraient servir à promouvoir une alimentation plus saine, avec l'opportunité de griller des légumes.
Super.
Et ainsi de questionner sur les stéréotypes de genre.
Je vais venir avec mes poivrons. On va se faire des carottes barbecue, ça va être super.
Et on va débattre des stéréotypes de genre.
Barbecue électrique, c'est ça.
Oui.
Pas de charbon.
Électrique, avec la batterie.
Les barbecues en ville, est-ce une bonne ou une mauvaise idée, Thierry Moreau?
J'adore cette information ce matin parce qu'elle synthétise en fait toutes les contradictions de nos écolos français. On nous explique que le barbecue est viriliste, tu l'as rappelé Rémi, CF Sandrine Rousseau, qu'il faudrait manger moins de viande. Je serais curieux de savoir combien de gens vont arriver avec des carottes ou des navets pour les faire griller, ce sera, ou alors peut-être des merguez véganes, je sais pas. En tout cas, ça me fait assez rigoler. Et en plus, autre message des écolos, il faut qu'on s'achemine vers une sobriété énergétique. C'est barbecue électrique, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont pédaler pour faire marcher les dynamos.
Bonne idée.
Ou alors il y aura un groupe électrogène, un bon truc au fioul qui va bien cracher de la fumée à quelques centaines de mètres de là. Ou une grande rallonge.
Une grande rallonge.
Patatras, quoi.
C'est des batteries intégrées, elles sont chargées, les batteries. Ta voiture électrique, tu la branches pas chez toi.
Excusez-moi, j'ai eu un barbecue électrique, il y a une prise.
Il y a des batteries. Aujourd'hui, il y a des barbecues électriques avec batterie.
Rechargeable.
Absolument.
Batterie lithium qui sont dégagées par des enfants à l'autre bout du monde.
Patatras, Mathilde.
Les élus écolos viennent de se retrouvent confrontés à une réalité très simple. Il y a 4 Français sur 10 qui ne partent pas en vacances. Et qu'est-ce qu'on fait quand on part pas en vacances? Eh ben, on se retrouve avec ses voisins, on fait des fêtes de voisins, on se retrouve, quand il fait chaud et quand il fait beau. Et ben, donc, les barbecues de voisinage, il faut les réglementer. Donc, on a 2 façons de les réglementer. On envoie la police en disant, ben non, aux barbecues sauvages, ou on les autorise. Et donc, je suis content de voir que, comme il y a eu une gauche qui est devenue une gauche de gouvernement en reniant un certain nombre de ses principes, ben maintenant, on a des écolos qui sont devenus des écolos de la vie quotidienne et qui se rendent compte que, ben, il faut faire un peu son aggiornamento et revenir sur son
Non, mais parce que comme vous le prononcez mal, on comprend rien.
Aggiornamento.
Oui, voilà.
Et en fait, son examen de conscience,
oui,
se confronter à la réalité et puis être au plus proche de la vie quotidienne des gens. Le barbecue fait partie de la vie quotidienne des gens. Et voilà, c'est une réalité. Et les principes, de temps en temps, il faut passer au-delà pour s'adapter à la vie quotidienne des gens.
C'est une bonne nouvelle pour vous, Benjamin Muller. Voilà, c'est barbecue en ville. Vous qui êtes un peu le plus bobo d'entre nous, vous devez être tellement content de pouvoir amener vos poivrons.
Mais bien sûr.
Comme ça, vos champignons shiitake.
Et votre brochette de tofu.
Tofu grillé.
Non seulement c'est une bonne nouvelle, mais c'est la meilleure nouvelle de l'année. Alors, Estelle, à quel moment dans l'année on se dit, franchement, la vie est belle, la vie vaut le coup d'être vécue, je galère? Bah, c'est quoi? C'est au mois de juillet quand vous faites un petit barbecue avec les copains, vous jouez à la pétanque. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie des grands moments de convivialité, de bonheur, et pour moi, sont symbolisés par le barbecue. Donc, que les écolos de Paris, je précise bien de Paris, parce que là, on est quand même sur
à Grenoble aussi.
Mais à Grenoble, on est sur les villes où l'écologie politique gangrène un petit peu le cerveau de certaines personnes. C'est ça que je veux dire. Parce que dans la vraie vie, des gens, ils attendent pas forcément d'avoir ces autorisations-là. Et les barbecues sauvages, moi, j'en ai déjà fait 1000. Je me suis jamais fait contrôler.
Mais c'est la meilleure vie. Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir une assoce qui s'occupe de mon barbecue.
Ce que je voulais juste,
c'est qu'il me met des poivrons.
Ce que tu as dans le barbecue, c'est la sensation d'interdit aussi.
Mais ce que j'aime dans le barbecue, c'est le faire moi-même. J'ai pas du tout envie que quelqu'un mette mes saucisse sur un barbecue, je veux le faire moi, je veux retourner ma saucisse, je veux savoir quand elle est cuite ou quand elle est pas cuite.
Non, mais ça, ils vont repiquer.
J'ai pas du tout envie d'un encadrement de barbecue.
Alors, quand je suis allé en Californie, vous savez qu'il y a quand même un pays bien plus bobo, bien plus écolo que nous. Hein, on est quand même dans le temple de l'écolo, bobo, etc. à San Francisco. Et en fait, dans chaque immeuble, sur leur rooftop, ils ont des barbecues partagés.
Sur leur toit.
Ils ont des barbecues partagés. Et alors, ce qui est assez fascinant, moi, j'avais vu ça, je me suis dit, mais meilleure vie. Parce que les gens mangent tous ensemble, chacun amène ses petites saucisses et ses petits trucs et ils partagent. Sauf qu'eux, ils ont un truc que nous, on n'a pas forcément. C'est la culture du, quand ils ont fini, ils raclent tous leur barbecue et ils rendent un truc absolument nickel. Je me demande juste dans quel état, en France, on va laisser ces barbecues qui, à mon avis, auront surtout du succès auprès de qui? Auprès des jeunes.
Mais non, ça va être encadré par des associations.
Oui,
t'as rien à faire.
On est capable de faire un barbecue. Là, j'ai un message d'un ami qui me dit, mais quand la batterie au lithium du barbecue est vide, comment on fait pour la recharger?
Les batteries de rechange. Tout est prévu. Ça va être formidable. Mais ça va être formidable.
Excusez-moi, mais aujourd'hui, ils font des tout petits barbecues qui sont pas chers du tout. Et t'arrives avec un barbecue individuel, tu mets 3 petits trucs de charbon, un petit briquet et hop, tu fais un barbecue.
Pas de charbon, grand Dieu!
Non, mais arrêtez.
Barbecue sauvage.
Mon Dieu! Bien sûr. Tu mets une grille, 3 briques et hop, un peu de charbon. Et tu fais ton barbecue. Mais c'est quand même sympa.
Le charbon, ça fait penser au compost. Ou à Paris, ça, c'est la grande nouveauté. On veut imposer le compost partout, mais vous avez des associations de compost qui vous expliquent, qui vous réglementent. Association de compost qui vous dit, mais ça t'as le droit de mettre, ça t'as pas le droit de mettre, oulala, t'as mis une coquille d'œuf.
C'est ce que tu fais avec ton thym grillé là, pourquoi tu mets la poubelle? Mais non! Le compost là-bas, bah voilà.
Mathilde Immer, en tant qu'écolo, vous trouvez que c'est une belle initiative?
Moi, j'ai un barbecue à la maison, mais je vais à la campagne et on n'a pas attendu le mois de juillet pour l'allumer. Non, c'est un barbecue qu'on fait marcher au feu de bois, donc ça met beaucoup plus de temps, mais on se marre autour et en général, ça dure plutôt la longue après-midi que juste une heure ou deux.
Commencer à 11h et à 23h, on est encore sur la baie.
Moi, je me souviens quand j'ai vécu en Allemagne et à Berlin, on faisait des barbecues sauvages. Comme tu le disais, on nettoyait vraiment nickel à la fin et du coup, ça se passait très bien. Je ne suis jamais fait contrôler par les.
Vous n'aviez pas d'association qui venait dans votre jardin, je veux dire, pour voir si.
Parce que je ne sais pas quel rôle aura l'association. Moi, je trouve malgré tout que si ça marche et qu'il y a une demande, tant mieux. Et je pense notamment vis-à-vis des jeunes. Aujourd'hui, il y a quand même un truc qui m'inquiète énormément quand tu vois le taux de dépression chez les jeunes. Enfin, pardon de remettre un peu de sérieux dans cette discussion où on se marre et
on est d'accord.
Il y a 20% de dépression aujourd'hui chez les jeunes. Ça a augmenté énormément depuis le Covid. Si on peut avoir des espaces où les flics viennent pas les emmerder, où il y a du lien social qui se crée, eh ben, c'est très bien. Et que ce soit des merguez ou des légumes, c'est très bien. Enfin, moi, je m'en fiche de ces questions-là. Si ça permet cette création de la sociale, eh ben, très bien. Et moi, il me semble que c'est né à Grenoble sur un budget participatif. Donc, c'est-à-dire que c'est la demande des citoyens qui a créé ça et que les écologistes ont suivi cette demande-là. Oui. Eh ben, c'est bien. Et puis, si ça permet d'engager des discussions sur les polémiques sur le barbecue, c'est très bien. Mais à nouveau, moi, je trouve qu'il ne faut pas réduire l'écologie parole.
Quand je fais mon barbecue avec mon petit verre de rosé et mes merguez, j'ai pas du tout envie qu'on vienne me parler du genre du barbecue. Mais je m'en fous, en fait.
Mais on viendra pas t'en parler si tu veux pas en parler, en fait.
Ben, si, c'est les associations qui sont là à me dire, excusez-moi, vous savez que le barbecue a un genre? Mais non, en fait, je ne sais pas.
Les associations, elles vont pas être là pour faire ça.
Bah, Rémi.
Non,
Rémi, dis la vérité.
Non, mais c'est juste, mais en fait, le Conseil de Paris.
Les barbecues avec une rallonge. Arrêtez de tout caricaturer.
Le groupe écologique.
Il y a une batterie comme sur la voiture de Thierry.
Bah, ça
qui est rechargeable et qui se recharge en dehors du temps où tu fais ton barbecue. Arrêtez de tout caricaturer aussi.
Ouais.
Il y a un moment, faut arrêter d'être complètement.
Et puis j'ai envie qu'elle me dise, excusez-moi, vous savez qu'il faut pas manger trop de viande. Vous voyez, la saucisse c'est pas très bon. Vous feriez mieux de mettre des poivrons et des carottes sur votre barbecue. Je n'ai pas envie. En fait,
le
barbecue, je veux qu'on me foute la paix. Je veux être avec mes amis, ma famille, etc. Mais j'ai pas envie d'avoir quelqu'un sur le dos. En fait, je n'ai pas envie.
Non, mais je pense que vous n'aurez personne sur le dos. Néanmoins, j'ai remarqué que
le groupe écologiste dit que ça sera animé par des associations.
D'accord.
Pourquoi l'encadrer, quoi?
Non, mais c'est là où ils sont pas malins. C'est là où politiquement ils sont pas malins.
Mais parce qu'ils sont coincés.
Ben oui,
parce que c'est contradictoire avec tout ce qu'ils défendent.
Non, mais alors, moi, je veux bien dire un point. Parce que Sandrine Rousseau dit une chose que les écologistes tous en cœur disent cela.
Ah, tous les écolos disent qu'il faut manger moins de viande.
Non, mais regarde, tu regardes Marie Pochon, qui est une élue écologiste en zone rurale. Elle pousse aujourd'hui EELV à avoir une position sur un certain nombre de questions sur lesquelles les écologistes de ville ont une position un peu binaire.
On l'entend moins.
Oui, mais ça vient, c'est du travail aussi.
On l'entend moins.
Où ça prend du temps. C'est complexe, ces sujets-là. Donc, c'est très facile de faire de la caricature, là, comme on fait. On se marre. Et je suis la première à me marrer. Et oui, c'est marrant. Mais c'est compliqué de répondre à ce sujet-là. Quand tu dis, Estelle, j'ai pas envie qu'on vienne m'emmerder à me dire qu'il faut manger moins de viande. Oui, mais malheureusement.
Parce qu'on le sait.
Oui,
c'est pas le moment. C'est pas au moment où tu mets ta côte de bœuf sur la grille. Je veux dire que t'as envie qu'on te dise qu'il faut manger moins de viande.
Ouais, maintenant,
j'y pensais à 13h, tu vois. Là, il est midi.
À quel moment, c'est bien de te le dire.
Non, mais c'est parce que je l'ai intégré. J'ai pas besoin qu'on me le dise, je l'ai intégré.
C'est comme quand tu bois une bière, si jamais il y a ton médecin généraliste qui vient te dire attention à ton foie. Bon, ça va un peu te casser le plaisir.
Oui, je m'en occuperai à 14h.
Sur les clubs, t'as marqué fumé-tu. Non, mais je veux dire, il y a un moment où c'est jamais le bon moment de parler de ce qui est chiant du côté écologique. Des choses super
bien.
Mais non, mais arrête, Estelle, on s'en fout. Mais non, mais en vrai, la réalité de ces trucs dont on se marre, c'est quand même que, à la fin, on sera tous à pleurer sur la réalité de ce qui va se passer et ce qui se passe déjà. Les feux de forêt, on va encore pleurer cet été.
Oui.
Mais
dans
20 ans, 30 ans, vous en foutez peut-être parce que
mais pas du tout, on s'en fout pas.
Mais les jeunes qui sont déjà en dépression à 20%,
mais c'est pas comme ça que tu sensibilises.
C'est ça qu'on leur permet de faire un barbecue.
Mais c'est pas comme ça que tu peux sensibiliser à l'écologie en faisant priver un plaisir simple de manger un petit
bout. C'est
sûrement une énorme erreur de communication politique que de considérer que tu vas sensibiliser les gens à l'écologie en leur privant du barbecue. Il y a quand même d'autres sujets vachement plus.
Ils permettent le barbecue.
Oui, mais avec un discours culpabilisateur qui quand même ça me manque vraiment d'intelligence.
Moi j'attends de voir, j'en sais rien. À Grenoble a priori ça se passe bien sans qu'il y ait des trucs cucul après la ligne qui t'entourent pendant que
mais attention Paris,
on ira vous avez entièrement raison. Écoutez, on ira tous au barbecue, on fera un barbecue Estelle Midi dans un parc du 18e pour voir comment ça se passe.
Sinon,
vous avez vu rigoler depuis tout à l'heure Rémi, vous avez plein de messages.
Il y a énormément de messages sur le sujet. Carole qui nous dit c'est comme la fête des voisins où tu es sûr qu'on va te juger sur ce que tu manges. Il y a également Julien qui nous dit des barbecues publics et organisés, ça s'appelle la fête de l'UMA. Et puis ça va être joli le barbecue écolo-électrique à pile à faire griller un steak veggie pour pas froisser Sandrine Rousseau et avec des véganes qui mangent sans gluten. Bon, il y a ces réactions-là, il y a la réaction de BN également qui nous dit un barbecue électrique et végane n'est pas un barbecue. Pour un bon barbecue, il faut de la fumée et de la barbaque, sinon ça va augmenter les dépressions.
Tu parles de la fête des voisins, Rémi, dans un instant, on sera avec justement le créateur de la fête des voisins, qui est également spécialiste des barbecues. Ouais. Entre voisins, donc des barbecues souvent ouais, en ville et collectif. Alors là, pour l'instant, on dit que du bien des barbecues. Mmh. Mais les barbecues, ça n'a pas que des avantages. On va en parler avec Virginie, qui nous appelle de Melun. Alors Virginie, elle a un métier, c'est la première fois qu'on a ce métier dans l'émission. Elle est propriétaire d'un hôtel pour chats. Vous êtes complet pour les vacances, Virginie?
Allô?
Oui, Virginie, vous êtes avec nous.
Oui, super contente de vous avoir. Je suis très contente.
Aussi.
Bravo à l'équipe, je vous adore. Je vous écoute tous les midis.
Mais c'est trop sympa.
Je ne suis pas encore complète.
Mais attendez, un hôtel pour chats, mais enfin, ils viennent avec leur propriétaire?
Alors, non, pas du tout.
Ah bon? Pour les garder
en fait,
pendant qu'on
parle.
Ah, c'est une pension.
Voilà. Oui, en fait, les gens partent en vacances et moi, j'ai leur petit loulou en vacances chez moi.
Est-ce que tu pensais que c'était un hôtel?
Est-ce qu'elle pensait que les gens allaient emmener leurs chats à l'hôtel?
Est-ce que vos chats font des barbecues à l'hôtel?
Mais non, mais je pensais qu'en fait, les gens venaient avec leurs chats à l'hôtel. C'est un hôtel pour chats. C'est pas un hôtel, quoi.
C'est un hôtel, mais pour chats. C'est-à-dire que moi, je reçois des chats en vacances pendant que les maîtres sont en vacances ailleurs.
Oui, mais enfin, je veux dire, n'ont pas une chambre. Enfin, je veux dire, un hôtel.
J'ai des chambres privées VIP avec des jardins.
C'est un truc de luxe. Ça existe.
Un peu.
Pension de luxe pour les chats quand vous avez besoin de vous séparer de votre chat pendant les vacances.
C'est ça.
Ah oui.
C'est simple.
Et ben, c'est super. Je m'étonne qu'on n'ait pas encore fait un sujet là-dessus.
Ça évite de l'abandonner, hein, déjà.
Quand vous voulez. Moi, je rappelle demain, si vous voulez.
Mais écoute.
Pour chat.
Après, on va revenir sur
demain,
les barbecues. Mais Virginie, elle est à combien votre chambre la plus chère en haute saison?
Ah non, en haute saison, ma journée, c'est 25 euros. Sinon, j'ai des enclos extérieurs avec des chalets. J'ai 260 mètres carrés d'enclos extérieurs. Avec des chalets, avec des dodos.
Des chalets, très bon.
Oui, petits chalets. Oui.
Et des chabots
dodos
aussi.
Les chalets de vacances.
Ouais. Et il a fabriqué des colocates.
Ah, mais oui. Et si vous partez en bateau, vous pouvez aller en Ubicat, ça marche très bien également.
Je gagne très bien ma vie.
Mais j'en suis ravie, Virginie, mais c'est vrai que c'est une niche. Enfin, je veux dire, c'est pas une niche, mais.
C'est pas une niche,
c'est une niche.
Mais non, on parle de chat.
Mais non.
Excusez-moi, j'ai perdu.
Ça, c'est pour les chiens, ça.
On va revenir au barbecue. Parce que vous, Virginie, autour de la table, on est tous des grands fans de barbecue. Mais vous, le barbecue vous agace. Expliquez-nous pourquoi.
Parce que mes voisins, entre mars et octobre, c'est-à-dire dès qu'il fait beau, je veux dire, même s'il fait 10 degrés, ça sent le graillon. Ils font des barbecues tous les jours.
Oui.
Et tous les jours, c'est au lieu de les mettre de l'autre côté de leur jardin, en fait, c'est vraiment accolé à mon mur et ça sent le graillon. Je sais ce qu'ils bouffent. Ils bouffent soit de la sardine, soit de la viande, mais tous les jours, c'est horrible. Quand il fait chaud, je veux.
Mais ils vous invitent pas
chez moi. Bah non, ils m'invitent pas.
Les chats, ils doivent être fous avec l'odeur de la sardine.
Ah bah oui. On voit leur petit museau qui se lève là. C'est trop marrant, il y a des émeutes.
Mais c'est pour ça que ça n'arrivera pas avec la mairie de Paris, parce que comme ce sera des barbecues écolo, ils mettront du poivron, et le poivron sent moins fort que la
sardine.
Il y a quand même des dégagements de fumée, etc. Et le problème, c'est que si tout le monde fait son truc, c'est-à-dire le même jour a décidé de faire le même truc, genre il y en a qui font des merguez au troisième, il y en a qui font des sardines au deuxième, des poivrons au premier,
c'est
l'enfer pour les derniers.
Mais là, c'est dans les parcs, c'est organisé, c'est des barbecues
dans
des parcs.
Des barbecues organisés, c'est pas des barbecues genre dans l'immeuble.
Non,
pas des barbecues sauvages, mais enfin, on risque d'y arriver parce qu'il y a certains pays où ça marche très bien, donc il n'y a pas de raison qu'en France, on puisse pas mettre un barbecue dans une cour et faire des barbecues collectifs. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça risque quand même de créer des petits soucis parce que tout le monde mange à peu près à la même heure. C'est-à-dire que, on fait pas un barbecue à 17h normalement, donc ça va être concentré entre 11h et 14h, et donc, ces barbecues risquent d'être victimes de leur succès, et donc derrière, il risque d'y avoir des petites frictions aussi quand même. Benjamin Muller, ce n'est pas négligeable. Merci en tout cas Virginie d'avoir été avec nous et de nous avoir à la fois parlé de barbecue, puis de nous avoir expliqué votre activité qui est assez insolite mais lucrative. Vous nous l'avez dit. Alors, on parle barbecue collectif, et qui dit barbecue collectif dit fête des voisins. Et ça tombe bien parce que nous sommes avec Athanase Périfan, c'est le créateur de la fête des voisins et spécialiste des barbecues entre voisins. Bonjour Athanase.
Bonjour à vous.
Et merci d'être avec nous. Alors, on se dit, Athanase, que finalement, les barbecues là, dans les parcs municipaux, ça peut amener à des barbecues en pleine ville et notamment dans les cours d'immeubles. Est-ce que ça serait une bonne chose?
Je trouve qu'on a besoin de convivialité. Alors, il faut trouver tous les prétextes pour qu'on se rencontre, qu'on se parle.
Bien sûr que le barbecue, c'est sympa. C'est un prétexte pour retrouver tout l'immeuble dans la cour, dans le jardin, ailleurs.
Mais oui.
Et il faut arrêter d'encadrer les choses. Ça m'amuse. Nos amis écolos, ils ont des supers idées de vouloir encadrer les barbecues, mais laissons les gens libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et moi, je fais confiance aux gens. S'ils ont envie de sortir un barbecue, de le mettre dans un parc, qu'ils se trouvent avec leurs voisins, s'ils veulent le faire ailleurs, ils le font ailleurs. Et je trouve qu'il est essentiel, on l'a dit tout à l'heure, les jeunes, on parlait des jeunes, mais oui, les jeunes dépriment. Et puis les personnes âgées, elles sont seules. Faisons des barbecues pour que tout le monde se rencontre. Donc, c'est simple, le barbecue. On est en train d'essayer de faire des choses compliquées sur des choses qui devraient être naturelles, spontanées. Et laisser les habitants un peu vivre tout seuls, ils sont assez responsables. Moi, je crois que les gens sont responsables.
Bah, pas tous.
Mais la plupart le sont. Puis quand on se parle, elle, à votre auditrice précédente, c'est vrai qu'elle peut aller gentiment voir le voisin en disant décaler juste de 3, 4, 5 mètres de barbecue.
On avait essayé déjà.
Ouais, mais ça se passera bien si ça se levait gentiment, sauf si elle tombe sur quelqu'un qui effectivement est complètement obtus. Mais moi, je fais confiance aux gens. Je pense qu'il faut que les gens se reparlent, se retrouvent. Après la crise du Covid, on l'a vu, comment la distanciation sociale, c'était une catastrophe. Donc oui, le barbecue, faisons des barbecues partout et laissons les gens s'organiser. Pas besoin de mettre des barbecues électriques ou pas. Chacun fera comme il a envie de faire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut y aller.
Mais vous, vous dites, Athanase Périfan, ce serait possible, par exemple, aller à Paris, par exemple, de sanctuariser une date et de faire, il y a la fête de la musique, la fête des voisins, et pendant la fête des voisins, barbecue. Faire la fête du barbecue, tout le monde sort sa petite grille, comme ça, ce serait sympa pour vous.
Oui, et puis non, surtout que les gens le fassent quand ils ont envie. On se retrouve entre voisins, avec le voisin du pavillon en face, celui de la maison à côté, ou de l'étage du dessus, on dit, tiens, on fait un petit barbecue, ok, et pas d'interdiction, pas d'autorisation, c'est pas des choses qui sont compliquées. Si se retrouver autour d'un barbecue pour partager avec les voisins, demande qu'on fasse une nouvelle loi, qu'on réglemente, qu'on vote des vœux, on est mal barré.
Ça, c'est une demande de la part de tous les voisins qui font la fête des voisins, justement, de pouvoir faire des barbecues entre eux.
Mais bien sûr.
Plutôt que d'amener du jambon sous cellophane.
Et c'est ce qui se fait souvent. Un tiers des fêtes des voisins en France, il y a 10 millions de participants à la fête des voisins. Un tiers, c'est des gens qui vont des barbecues. Et ça se fait en ville, ça se fait effectivement en jardin. Et la 24e saison a commencé le 2 juin et ça va s'étaler jusqu'au mois d'octobre. Donc, les gens sont prêts, si on leur lâche un peu la bride, à se retrouver, à partager. Et le barbecue, c'est quoi? C'est le point de démarrage d'une rencontre entre voisins qui vont ensuite pouvoir s'entraider, être solidaires. Et on a besoin de se retrouver pour s'entraider, parce qu'on voit bien que les personnes âgées sont seules, que les jeunes dépriment un peu. Et pourtant, il y a des gisements de générosité chez les gens. Je pense que la multiplication des lois qui compliquent les choses font que les gens, ils font plus rien. Voilà. Si on leur lâche un peu la bride, on y arrivera.
Non mais je suis totalement d'accord avec vous, Athanase. On va entendre le témoignage d'Alex. Alex, il nous appelle de Bayonne, mais il a vécu très longtemps en Australie. Bonjour, Alex.
Bonjour.
Et merci d'être
Bonjour.
Avec nous.
Bonjour à tous. Je vous en prie.
Et Alex, Rémi le disait tout à l'heure, l'Australie, c'est vraiment le pays des barbecues. Là-bas, il y en a partout, hein, c'est ça?
Barbecue partout, à la maison, dans les parcs, sur les plages, c'est en libre service, c'est gratuit.
On vous entend très mal, Alex. Il faut vraiment parler à côté de votre téléphone. Ça y est, oui, c'est mieux.
Allô?
Ouais, ça y est.
Parce que je suis sur la route. Et donc, c'est avec une minuterie, on appuie sur le bouton, ça doit tourner à peu près un quart d'heure, 20 minutes, on rappuie, et voilà, c'est libre service, c'est gratuit. Et les gens les nettoient, en fait, là-bas. Les gens sont civilisés, ils ont la culture de rendre aussi propre que dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé. Donc, ça marche très, très bien. Il n'y a pas de feu parce que c'est électrique. Les gens se chamaillent pas autour pour savoir qui est-ce qui va s'en servir parce que il y en a vraiment pas mal. Et puis là-bas il y en a partout et ça marche très très bien. Même ça crée des on peut rencontrer des gens autour des barbecues aussi parce que les gens ils sont là pour la même chose, donc ils mangent, ils papotent, ils échangent.
Ah, c'est top.
C'est très sympa.
Et vous pensez que ça pourrait marcher en France, que les Français nettoieraient le barbecue après utilisation, par exemple?
Si vous me posez la question, c'est que vous-même vous avez un peu le doute.
Ah, totalement.
Je sais pas s'il resterait très longtemps propre ou même si il y aurait pas des gens qui passeraient la nuit pour faire la ferraille, enfin d'autres choses quoi. C'est des choses en France, on n'a pas la même culture, on n'est pas aussi civilisé que en Australie, je pense. Je pense qu'il y a un petit problème de ce côté-là. Après, ça vaut le coup d'essayer. Hein. Peut-être Paris, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire des conclusions à ce niveau, mais faut essayer. Peut-être bord de plage ou dans les parcs ou. C'est parfait, quoi.
Et Alex, en fait, en Australie, c'est des barbecues que tout le monde partage ou c'est des barbecues, par exemple, pour 4, pour 6, pour 8 ou c'est des immenses barbecues?
Alors non, en fait, c'est plein de petits barbecues pour 4, pour 6, mais genre, tous les 50 mètres, vous en avez 4 ou 5. C'est vraiment, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Moi, j'habitais sur Perth, c'est dans Western Australia, c'est dans le sud-ouest, donc je pense que c'est partout pareil en Australie. J'étais allé un peu sur Melbourne, mais sur Perth, dans le grand parc qui est King's Park, il y en a peut-être... Il y a peut-être 5 spots où il y a 5 ou 6 barbecues. Sur les plages, pareil, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ça coûte pas grand-chose. Ils montent ça avec du béton, une plaque, et ça doit être raccordé à la ville. Et puis voilà, ça roule très, très bien.
Qui ont cueilli du kangourou.
Et c'est... Non, mais...
Ouais, wow, et entre autres, du kangourou. C'est très, très bon, le kangourou, la queue de kangourou, c'est vachement bon. Et puis on mange de tout, quoi. Et puis on peut faire aussi bien du légume que des trucs. Et puis il n'y a pas de problème de régime particulier, puisque finalement, si vous avez cuit de la viande ou du poisson et qu'il y a un végétarien qui passe après vous, vous êtes censé avoir nettoyé le truc, donc c'est propre, donc il n'y a pas de problème de goût, d'odeur, de...
De religion, de quoi que ce soit.
Oui, bah... exactement. C'est un moment sympa, quoi. On boit un petit coup, on discute, on rencontre des gens, on profite du soleil, parce qu'on est tous des plantes, on a besoin d'un peu de vitamine D aussi.
Ça, c'est vrai.
Et tu repars avec le sourire, quoi.
Il nous a fait envie, Alex, là. Merci beaucoup, Alex, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et effectivement, quand vous nous racontez l'Australie et ses barbecues, on rêverait que ce soit la même chose dans les villes de France. Merci également à Athanase Périfan d'avoir été notre invité. Et on va voir si tous ces témoignages ont séduit nos auditeurs, nos téléspectateurs. Rémi, la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi, c'est: doit-on autoriser les barbecues en centre-ville?
Oui, pour 57% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux, ça promet quelques barbecues cet été.
Eh ben, franchement, ce serait, je trouverais ça assez chouette et ça permettrait de remettre un petit peu de convivialité dans tout ça. Allez, dans un instant, il y aura le zapping. On va revenir bien sûr très longuement sur le drame qui a frappé Annecy hier. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h32 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi avec aujourd'hui Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Muller et Mathilde Himmer. Et tout de suite, c'est le moment du meilleur d'RMC, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on revient évidemment très longuement dans ce zapping sur ce drame qui a frappé la ville d'Annecy hier. Apolline Matin, ce matin sur RMC. Est-il indécent que les politiques aient réagi aussi vite sur ce drame? Très peu de temps après ce qu'il s'est passé hier matin, nombre de politiques ont commenté sur les réseaux sociaux ou se sont exprimés dans les médias. Mais pour Laure Lavalette et les députés RN du Var, ces réactions sont avant tout humaines et n'ont rien d'indécent.
Vous savez, l'effroi nous a tous saisis. Nous étions en plein hémicycle. Évidemment, on s'est levé, on a fait une minute de silence. Encore une fois, moi, la maman que je suis et qui a passé des heures, voire des jours au parc, a été évidemment saisie d'effroi. Après, là, les gens dont vous me parlez sont des responsables politiques. Il faut évidemment apporter une réponse politique. Et c'est vrai que ce procès en indécence, j'avoue, m'exaspère un peu, parce que je peux vous dire que 10 secondes après que la dépêche AFP soit passée, nous avons été harcelés par les journalistes pour avoir évidemment des réponses. Donc, nous faire après le procès de l'indécence de répondre aux questions des journalistes, je trouve pas ça très très honnête intellectuellement.
Thierry Moreau, est-ce qu'il y a eu une indécence hier, vous trouvez, de la part des politiques?
Alors, je pense qu'il y a eu une indécence de certains politiques à vouloir tout de suite tirer une leçon politique de ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, c'est une lapalissade ce que je vais dire, mais il y a un temps pour tout. Qu'il y ait eu des réactions d'émotion immédiates, c'est compréhensible. Et tout le monde, évidemment, s'est mis à la place de ses parents qui ont eu leur enfant, qui était à l'hôpital, qui lutte pour la vie, et que c'est un truc effroyable. Donc, faire part de son émotion est une bonne chose. Ça prouve que nos hommes politiques sont des humains. En revanche, des politiques se sont précipités pour parler de terrorisme, alors que la qualification de terroriste jusqu'à le nouvel ordre n'est pas encore
sollicitée. Il n'y a pas eu besoin de parler pour les journalistes de les solliciter, certains.
Bon, oui. On les a sollicités aussi.
Il y en a qui se sont exprimés sur Twitter, cette politique Twitter de vouloir absolument tirer une leçon politique immédiate. Donc, des gens ont parlé de terrorisme alors que la qualification terroriste n'était pas faite. Il y en a qui ont parlé d'islamisme tout de suite, en parlant notamment du couvre-chef qu'avait le fou furieux, en analysant ça comme étant déjà un signe de terrorisme islamiste. Non, attendons la fin de l'enquête. Encore une fois, le temps de Twitter n'est pas le temps de l'enquête policière et le temps de judiciaire, et il sera largement le temps de tirer des leçons politiques, parce que ça ouvre évidemment des questionnements sur le droit d'asile dans l'ensemble du territoire européen.
Aussi les questions sur la psychiatrie
donc... avec des gens qui se retrouvent soit dans la rue, soit en prison, alors qu'ils devraient être dans des hôpitaux parce que la psychiatrie n'a plus de moyens. Plein de questions politiques, mais pas là, maintenant, tout de suite.
Est-ce que les politiques sont des gens comme tout le monde, Mathilde Himmer? Parce que c'est vrai que hier, quand on a vu, pour la plupart d'entre nous, la vidéo qui est effrayante, en fait, qui a circulé sur les réseaux sociaux, la vidéo de l'homme qui a poignardé des enfants, on a regardé, on a réagi entre nous, on a tous été bouleversés par ce drame. Et finalement, est-ce que vous trouvez pas ça normal que les politiques aussi soient bouleversés et aient envie, d'en parler?
Qui réagissent, moi je trouve ça tout à fait normal, et que l'émotion, comme le disait Thierry, soit partagée, ça me semble plus que normal, voire nécessaire. Ça reste des êtres humains. Moi, il y a quand même certaines réactions qui, franchement, m'ont donné envie de vomir. Quand j'ai entendu Éric Ciotti qui prévoit d'abord une conférence de presse pour l'annuler parce que ça correspondait pas le profil ne correspondait plus à ce qu'il attendait de cet acte. Quand Aurore Berger dit aux députés d'arrêter de travailler sur la retraite parce qu'il y a, cette attaque. Ouais, moi, c'est des moments, c'est ces moments-là où je me dis vraiment, ils me dégoûtent, ils me font vomir, alors que je pense qu'on se rend pas compte de à quel point ce type d'attaque peut laisser des traces dans une vie, des flashbacks, des choses qui reviennent la nuit, et c'est un moment où je pense que Thierry a raison, il y a un temps pour tout. Après, oui, il faut trouver des solutions, et je comprends tout à fait ce que dit Laure Lavalette sur on est aussi harcelé par les journalistes, il faut trouver des solutions. En vérité, sur ces questions de puisqu'on mélange tout en plus, on met terrorisme, immigration, délinquance, on fait un petit paquet qu'on remue et puis moi je pense que ça fait beaucoup trop d'années que les politiques essayent d'apporter des réponses qui ne sont en réalité pas efficaces. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut un format d'un débat apaisé qui va dans le fond de la complexité. Et je pense qu'une convention citoyenne sur la migration, sur les questions de délinquance aussi serait utile et nécessaire pour qu'on arrête le débat avec les petites phrases de nos politiques qui franchement parfois.
Enfin là, le problème c'est qu'il y a plusieurs débats dans le débat. Encore une fois, il y a effectivement l'immigration, mais encore une fois, cet homme était là de manière légale.
Oui.
Donc c'est pas comme le débat sur il avait 3 OQTF et on l'a pas enlevé du territoire. Et puis après, aujourd'hui, il y a certains témoignages où on se dit ils ont l'air d'être quand même plusieurs dans sa tête. Il y a un problème. Voilà, il y a le problème de la psychiatrie en France. Et c'est vrai qu'hier, en fait, on avait tellement d'infos, les uns comme les autres, et en fait, et tout d'un coup, tout se bousculait. Et il aurait peut-être dû avoir un devoir de silence, en fait, de la part des politiques. Mais je pense que c'est aussi compliqué pour eux.
Quand elle dit, moi, je suis harcelée par les journalistes qui demandent une réaction. Oui. C'est tellement faux cul de dire ça. Je veux dire, elle peut tout à fait réagir et dire, il y a un drame terrible qui se passe.
Et certains l'ont dit d'ailleurs.
Oui, mais bien sûr.
Certains politiques ont été sollicités et on dit que
pour l'instant, c'est
le temps du deuil et on verra plus tard.
Soutien aux équipes, machin. Top. Et voilà. Évidemment, notamment dans son parti, mais pas que, Aurore Berger, c'est pareil, c'était la gerbe tout autant. Pardon, mais faire le lien avec la réforme des retraites, c'est atroce. Et j'ai, comme vous, vu les images qui, moi aussi, m'ont hanté, mais comme elles hantent tout le monde. Et j'imagine bien que ça hante aussi les personnalités politiques. Moi, j'ai quand même l'impression, à 24 heures, un peu plus tard, que le débat, s'il y a un débat politique qui va être posé, c'est sur l'état de la psychiatrie en France. Parce que les psychiatres hurlent depuis des années et des années sur le niveau de la psychiatrie. Sauf que politiquement, pensez que ça les intéresse de faire un débat sur le niveau de la psychiatrie en France? Personne. Non. Donc en fait, politiquement, il n'y a pas de prise. Donc on va s'arrêter là.
On va gagner.
Et voilà. Donc effectivement, sur la récupération, c'est pareil. Les médias les appelaient, d'accord. Mais en revanche, personne forçait quiconque à mettre des tweets absolument pour dire il faut poser les questions de l'immigration.
Oui,
t'as dit à l'instant, il faut une convention citoyenne sur les questions migratoires et de délinquance. C'est pas un sujet c'est pas du tout un sujet sur l'immigration.
C'est juste que les réactions sur la délinquance. Ceux qui ont utilisé, ceux qui ont le plus utilisé et qui ont réagi en premier, ont souvent réagi sur la question migratoire.
Bah oui.
Et c'est là où je me dis, on a quand même un vrai sujet dans ce pays sur cette question-là. On n'arrive pas à avoir un débat apaisé là-dessus. Il y a un moment où il faut arrêter les petites phrases de la politique. Il faut avoir un autre modèle. Et les conventions citoyennes ont montré leur efficacité pour aller dans la profondeur des choses, avoir le temps d'un débat apaisé avec des chercheurs, avec des personnes qui savent de quoi elles parlent, et où on avance, quoi. On arrête d'avoir des politiques inefficaces qui s'accumulent les unes sur les autres.
Et juste une dernière chose, moi j'ai presque été d'une certaine manière, pas rassuré, mais un tout petit peu, quand j'ai compris que visiblement, on part quand même sur un profil psychiatrique et pas terroriste. Quand j'ai vu l'horreur de ces images, où je me suis dit, ok, moi j'avais besoin, quand t'arrives ce genre de choses, on a besoin de comprendre, même si c'est incompréhensible ce qui se passe, et de comprendre que c'est une maladie mentale, presque ça me rassure, au moins que c'est pas un objectif politique. Parce que s'en prendre à un bébé dans une poussette, moi, mon cerveau, il bug. Au moins, il n'y a pas Mohamed Merabis de ce que l'on en sait aujourd'hui. Voilà ce que moi, je me suis dit.
Mais tu peux te dire aussi que des gens comme ça, qui traînent dans la nature et qui ont des soucis psychiatriques, il y en a certainement plein. Et d'ailleurs, je pense que, hier, après ce drame, on a été assez nombreux à regarder encore plus ce qui se passait autour de nous dans les rues, etc.
C'est sûr.
Et tu vois des personnes qui sont détresse psychologique.
Surtout,
quand tu es dans le métro aujourd'hui, il y a des trucs qui t'interpellent quand même. Alors évidemment, tu tournes le regard, tu veux pas voir, mais en fait, il faut qu'on regarde parce qu'à un moment, si effectivement on se retrouve avec des gens comme ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et moi, ça me fait peur en fait de te dire que tu peux être au mauvais endroit au mauvais moment.
Et puis en plus, pour rajouter à ce que tu viens de dire, on ne vivra jamais dans une société 100% sûre. Aucun régime aujourd'hui, ni démocratique, ni dictatorial, ne peut garantir à ses concitoyens une société totalement sûre sans crime. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il faut bien l'intégrer.
Je Charles Matin, ce matin sur RMC. Comment évoquer ce drame, justement, avec ses enfants? Certains parents préfèrent ne rien dire, quand d'autres n'hésitent pas à leur en parler. Mais pas facile, quand l'émotion est encore vive pour tout le monde. Conseil ce matin sur RMC d'Hélène Romano. Elle est psychothérapeute spécialiste en traumatisme.
Pas ne rien dire. On peut expliquer en adaptant le vocabulaire à l'âge de nos enfants. Il y a quelqu'un qui, hier, qui a fait du mal à des enfants. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu des secours. Les gens, ils ont été soignés. Ils sont pris en charge et cette personne a été arrêtée. Les enfants savent, il y a les attentats, il y a la guerre. Ils savent qu'il y a des choses graves qui peuvent se passer. Ce qui est important, c'est leur permettre de comprendre qu'ils sont pas seuls et que les adultes sont là, même face aux épreuves. Leur dire ça se passera plus jamais, c'est malheureusement pas vrai. Il y a toujours des risques. Leur dire qu'ils seront jamais seuls, ça c'est une réalité. Donc rassurer l'enfant, c'est lui permettre de comprendre qu'il n'est pas seul au monde et qu'on met en place des choses. Et ça permet aussi, selon les âges, d'aider les enfants à faire des choses et à pas être impuissants.
Benjamin Muller, vous êtes auteur d'un podcast pour enfants, vous avez 3 enfants. Est-ce que vous en avez parlé hier?
Oui, parce que je pense que c'est une erreur qui est tentante, c'est de dire je vais pas leur en parler, ils sont trop jeunes, ils sont trop petits, ils sont trop tout ce qu'on veut pour comprendre ce qui est incompréhensible. Et en fait, c'est un mauvais calcul que certains d'entre nous ont pu faire pendant Charlie Hebdo, pendant l'attentat de Nice, etc., de dire on leur en parle pas. Sauf qu'ils arrivent à l'école, et évidemment, dès le soir même, ils reviennent en disant, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé à Annecy? Sauf qu'avec le téléphone arabe qu'il peut y avoir en école, ils imagineront toujours pire, toujours plus, même si c'est difficile d'imaginer pire, que ce qu'est la réalité. Donc moi, je pense que le rôle des parents, c'est d'expliquer ce qui s'est passé à hauteur d'enfant, d'expliquer aussi une chose importante, c'est que c'est arrivé, certes, en France, mais ça n'était pas arrivé ici, ça reste des choses qui sont très rares. C'est comme les pires faits divers, les disparitions, les féminicides, etc. C'est quand même important.
Les féminicides, ça arrive souvent.
Oui, mais à hauteur d'enfant, c'est quand même important de leur dire, ce sont des choses qui arrivent, mais qui, heureusement, restent quand même marginales. Parce que sinon, l'enfant, qu'est-ce qu'il va croire? Il va comprendre que ça se passe à tous les coins de rue, etc. Je donne l'exemple des féminicides parce que régulièrement à la radio, tous les 2-3 jours, vous entendez une histoire horrible. Je pense que c'est important de leur permettre de relativiser pour pas en faire des angoissés. Je parle d'enfants qui sont petits, là. Je parle pas d'enfants de 15 ans où effectivement, le sujet est différent. Donc, l'erreur à faire, ce serait, selon moi, de se dire on leur en parle pas.
Mathilde Dimmer, assez rapidement, est-ce qu'il faut que l'éducation nationale charge les professeurs, notamment dans les petites écoles, d'en parler aux enfants?
Franchement, je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. Je pense que oui, mais à condition de savoir le faire. Or, aujourd'hui, nos profs sont un peu laissés à l'abandon sur la manière d'aborder ces sujets-là. Donc, je sais pas répondre à cette question. Je pense que Benjamin serait peut-être plus pertinent.
Je trouve qu'il avait été mis en place, notamment après Charlie Hebdo, où ils étaient quand même un petit peu accompagnés, où il y avait
pas toujours été bien fait.
Non, évidemment. Là, je parle une fois encore des petits, où il y avait quand même des conseils.
J'ai connu quand même un gamin qui disait Charlie Hebdo, ils ont été tués parce que leur dessin n'était pas beau. Donc il y a quand même un truc qui voilà.
Bon,
manifestement, on leur a mal expliqué.
Là, c'est qu'il y avait un raté, ouais, effectivement.
Donc voilà. Ouais, après, effectivement, il faut que ce soit bien réussi parce que si le gamin il comprend pas et qu'il a pas le temps de poser ses questions.
Et alors après, si on parle 2 secondes des plus grands. Des adolescents, une fois encore, moi, ces images m'ont hanté cette nuit, mais comme je pense énormément de monde. Et donc je me dis, mais alors un gamin qui a 14 ans, qui a 15 ans, ou qui est sur TikTok ou sur Twitter a vu ces images, dans quelle mesure ça va pas aller lui faire mal à son cerveau? Donc là, c'est aussi le rôle de nous, parents, d'en parler avec les plus grands. On peut penser que les plus grands sont protégés, en fait. Pas du tout, évidemment que non. Sur ça, personne n'est prêt.
Allez, dans un instant, il y aura le rendez-vous des notaires. Comme chaque vendredi, on va parler séparation et immobilier. Bah oui, quand on se sépare, qu'est-ce qu'on fait de la maison? Eh ben, on va tout vous expliquer dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Nous sommes vendredi, c'est Estelle Midi. Et vous le savez, le vendredi, dans Estelle Midi, il y a le rendez-vous des notaires. Et ça tombe bien, c'est maintenant, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Les notaires vous répondent.
Avec des notaires qui, chaque vendredi, répondent à vos questions. Aujourd'hui, nous sommes avec Maître Édouard Grimont, notaire à Lille. Bonjour, Maître.
Bonjour.
Et on a une question, séparation immobilier. Maître, c'est une question d'Élodie. Elle a 44 ans et voici ce qu'elle nous dit. Bonjour, je suis paxée et j'ai acheté une maison à part égale avec mon partenaire il y a 8 ans. Nous séparons et il souhaite racheter ma part. Comment faire pour évaluer la valeur de la moitié de mon logement? Et est-ce qu'il sera taxé?
Alors tout d'abord, j'invite Élodie à faire quelque chose de très simple, à se rapprocher de son notaire, qui va lui expliquer comment va se passer ce rachat de part. Et dans ces explications-là, sera abordée la question, bien sûr, de la valorisation de la moitié du logement. Cette valorisation, le notaire peut d'abord s'en occuper. Un professionnel de l'immobilier qui s'est estimé valoriser les biens. Donc le notaire pourra s'en charger. Élodie peut également avoir recours, c'est une pratique courante, à un agent immobilier qui viendra sur place et qui saura également déterminer la valeur du bien.
Mais par exemple, Petre, imaginons, j'ai acheté, avec quelqu'un avec qui je suis paxé, un logement à 200 000 euros. Au moment où je l'ai acheté, mettons, donc moi j'ai 100 000, lui il a 100 000.
Tout à fait.
Quand on se sépare, le logement vaut 400 000 euros. Est-ce que, si je veux racheter ses parts, je lui rachète 200 000 euros la part en vigueur à ce moment-là, ou est-ce que je lui rachète 100 000 la part de départ?
Ben vous allez racheter tout simplement la part valorisée le jour où la cession interviendra. Tout à fait. Ah oui. Puisqu'on va tenir compte. Alors là, vous êtes dans une situation plutôt positive. Le bien a pris de la valeur. Mais inversement, le bien pourrait en perdre.
Ah oui, c'est vrai.
Eh bien, dans ce cas-là, vous paierez moins. Donc, on va, d'où l'intérêt de l'évaluation. On va déterminer s'il y a une plus-value, si le bien a pris de la valeur. Mais c'est la nouvelle valeur qui devrait être retenue pour fixer la moitié du prix, la valorisation de la moitié du prix.
Oui, mais alors si par exemple, excusez-moi, mais je sais que tous les notaires sont honnêtes, bien sûr, mais si par exemple, moi je veux racheter des parts, je vais me rapprocher d'un notaire qui me fait le meilleur prix, vous voyez ce que je veux dire? Qui un peu me sous-cote mon logement.
Le notaire doit être impartial,
bien
effectivement,
sûr.
Ne doit pas participer à ce qu'on pourrait qualifier, parce que la personne qui a le plus intérêt à ce que le bien soit valorisé, et ça répond en partie à la deuxième question, c'est l'administration fiscale. Ben, l'administration fiscale vérifiera éventuellement si le bien a été valorisé correctement. Alors, pratiquer une décote ou pas, tout dépend de l'état du bien, bien entendu. Ça peut parfois, à la marge, être décoté si les clients cédants, cessionnaires, s'entendent pour régler une petite dette qu'ils pourraient avoir entre eux, par exemple.
Ah oui.
Mais ça reste assez marginal. Il faut que le bien soit évalué au jour le plus proche de la cession.
Alors, quand vous vendez un bien, notamment alors une résidence secondaire, par exemple, l'État prend une partie, évidemment. Est-ce que là, si, par exemple, on rachète les parts de quelqu'un, est-ce que c'est taxé par l'État?
Alors non, parce que traditionnellement, dans ce genre de situation, la personne qui vend utilise le bien à titre de résidence principale. Il quitte les lieux peu de temps avant la cession, ou en tout cas une période assez proche, ce qui fait que le cédant bénéficiera de l'exonération pour résidence principale. Donc il n'y aura pas d'imposition sur la plus-value du côté du vendeur. L'acquéreur, lui, traditionnellement, comme pour tout achat immobilier, réglera ce qu'on appelle couramment les frais de notaire, c'est-à-dire la rémunération du notaire et puis les quelques taxes qui sont dues également, qui sont entre, on va dire, entre 4 et 5% pour ce type de dossier généralement.
Et si par exemple, lorsqu'on est paxé ou marié, on se sépare, est-ce que là, si l'un veut vendre la maison et l'autre pas, qu'est-ce qui se passe?
Il y aura une situation de blocage. Et si le bien est en indivision, alors il existe une action judiciaire un peu particulière qui permet de sortir de l'indivision, c'est le juge qui tranchera, puisque l'indivision, dans le code civil, doit rester une situation temporaire. Nul ne peut être contraint d'y rester.
Je vous sens très attentif sur ce sujet, Benjamin. Vous avez quelque chose à vendre?
On n'est jamais trop...
on n'est jamais trop prudent.
Je m'interroge sur la partie subjective.
Si on n'est pas d'accord avec l'évaluation du bien, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il arrive parfois que les clients décident de prendre chacun leur professionnel,
alors
notaire ou agent immobilier, et puis on fait la moyenne des deux.
Ah oui.
Voilà, ou ils tombent d'accord sur la valeur la plus basse ou la plus haute. C'est vraiment une négociation à avoir entre eux. J'ai envie de dire tout simplement.
Mais alors imaginez, Mathilde par exemple, elle est en couple et donc elle a acheté un bien 200 000 euros, donc 100 et 100. Elle se sépare, mais Mathilde elle est charpentière, donc ça veut dire qu'en fait elle a refait elle-même tout le logement, vous voyez, elle a refait la charpente, elle a fait tous les travaux et tout. Donc quelque part elle a plus fait pour le logement, mais tout ça, ça a été fait en bonne intelligence, entre couples, on s'aime, etc. Donc on n'a pas compté le prix des travaux. Qu'est-ce qui se passe quand elle se sépare?
Eh bien il faudra s'entendre avec son conjoint, partenaire paxé ou fiancé, pour lui expliquer que la plus-value apportée est due en grande partie à votre travail personnel, manuel, et que par conséquent, il faudra en tenir compte. Alors, dans la valorisation, ou surtout également dans la somme réellement payée, parce qu'on peut valoriser un bien et puis en payer un montant différent, parce que justement, il y aurait...
Quand on est artisan, on a un peu l'habitude de se faire avoir. Donc quand j'entends, on se mettra d'accord avec le conjoint, on verra. Moi, j'espère que ça m'arrivera pas.
Non, l'idéal, c'est toujours de garder des traces quand on fait ce genre de travaux.
On n'est jamais trop prudent.
Une traçabilité, effectivement.
Ben merci Maître en tout cas d'avoir été avec nous pour parler séparation et immobilier. On l'a bien compris, allez voir son notaire finalement pour tout ce genre d'étapes. C'est pas très agréable pour le coup,
non,
mais enfin il faut le faire pour éviter
bon
évidemment toute déconvenue. Le rendez-vous des notaires chaque vendredi dans Estelle Midi. Bah tiens, on va parler de couple dans un instant. Tiens, est-ce qu'il faut avoir les mêmes convictions que son conjoint pour qu'un couple dure? Est-ce que les différences ça fait le piment du couple ou au contraire pas du tout? Eh bien écoutez, on attend vos témoignages au 32-16 ou sur l'application RMC. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.